Mais il y en aura la prochaine fois, vous inquiétez pas, la prochaine fois, puisqu'on va, on va regarder la prochaine fois la question des racines amères et des événements analogiques. Très intéressant d'ailleurs, parce que bon. C'est très intéressant parce que le travail de deuil, la prise de conscience, d'abord la prise de conscience pour amener petit à petit au travail de deuil, en passant auparavant par l'oblativité, comme ce que nous avons expliqué les deux fois précédentes, qui permet de retrouver notre identité, notre identité profonde, métaphysique, ontologique, c'est-à-dire notre place dans un amour sans aucune vitre entre nous et le Père, aucune obstacle entre nous et le Père, cette compénétration entre Dieu le Père et Dieu le Fils qui nous a pris. N'est-ce pas? Tout ce mouvement-là, il se fait, c'est bien gentil, mais on s'aperçoit bien que les blocages qui sont en nous ne s'évaporent pas comme ça, d'un seul coup. Il faut bien donc les repérer. Donc, qu'on repère le travail de deuil, c'est bien, avec les 10 étapes que nous avons vues. D'ailleurs, si vous avez peut-être des questions à poser, moi, c'est bien, parce que vrai, c'est bien de faire ce canevas, mais c'est bien aussi, si vous avez des choses, que c'est des précisions à apporter, n'hésitez pas, parce que moi, c'est pas absolu, hein, ce qui. En plus, c'est que ça vient pas de moi, ça veut dire, si vous voulez savoir de qui ça vient. Qui est le responsable, vous trouvez que c'est une très grave erreur qui existait, vous ne l'invitez pas à lui. C'est Bernard Dubois, communauté de béatitude, communauté de 83 000, pardon, 81 000 et quelques, chute, n'est-ce pas? Les animaux. Alors écrivez-lui en disant que je suis absolument pas d'accord.
C'est quoi?
Les animaux. C'est la communauté des béatitudes. Il faut que Bernard Dubois ou il y a un ensemble de. Communauté des béatitudes. Jean Judas, c'est pas ça. Voilà, c'est lui de là. Là, je ne sais que vous. En fait, si lui venez ici, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est lui directement presque. Ça ne se passe mieux. Il est très intéressant, vous savez.
C'est lui qui habite dans le centre,
pas loin de. Pas loin d'un calca, oui. Voilà. Donc on avait vu la paperasse. D'ailleurs, tous les tableaux, là, j'ai rien touché, hein. C'est tout lui, hein, ça, hein. Tous ces tableaux que je donne. Hein. Bon, alors, moi, je ne sais pas, je tâtonne avec vous, je lis avec vous ce qui nous donne. Et ça veut dire par là que c'est un filtre à regarder, à sentir. Et puis, si vous avez peut-être, vous allez dire, vous allez sentir, c'est quelque chose qui ne va pas. La première chose, moi, que je vois, c'est la chose suivante, c'est très très beau, ce travail de l'œil avec les 10 étapes. N'empêche que. C'est pour ça que la foi prochaine, j'ai envie d'attaquer la question dans le discernement, justement. De revenir à la première étape qui est la prise de conscience, pour arriver à détecter. Le point qu'il faut attaquer, vous comprenez? Bah, parce que c'est bien savoir qu'il faut faire un travail de deuil, qu'il faut s'offrir, qu'il faut retrouver son identité, etc. Bon, il faut qu'on retrouve sa vocation profonde, etc. C'est très très grand et très beau de voir les différentes étapes, que je crois assez juste d'ailleurs, hein, quand on avait fait les. Mais on constate aussi que, il le dit d'ailleurs, il est honnête, il le dit, il le fait très bien, hein, ça se passe en 15 jours. Donc il faut du temps, d'une part, et d'autre part, le temps, ben, finalement, à bien regarder le temps, on s'aperçoit qu'on bute, on ne peut pas faire un travail de donation de nous-mêmes pour une guérison totale d'un seul coup, Bon, premièrement. Deuxièmement, il faut du temps aussi pour arriver à repérer. On s'aperçoit que c'est quand même un blocage terrestre. On est content, on sait qu'on a touché quelque chose, on sait qu'on est sur la voie, ça y est, on sait qu'il faut marcher, on sait qu'on peut courir, on sait que... Mais on constate qu'il y a le blocage, ça qui est là, il y a un espèce de truc qui arrête encore, qui ne marche pas tout à fait, qui a encore du grain dans les rouages, ça, du sable dans l'engrenage. Hein. Bon, et c'est d'où est-ce qu'il vient ce sable, n'est-ce pas? Il faut donc une nouvelle prise de conscience, que si on constate ça, ça prouve déjà que c'est une première guérison. Donc on a fait le tour de la spire du premier travail de deuil, il faut faire un deuxième tour de spire par rapport à ce que nous constatons maintenant de nouveau. Parce que ce petit blocage qu'on voit maintenant, on ne le voyait pas avant, on ne voyait pas qu'il est. On voit ce nouveau blocage, on voit qu'il existe, mais on n'avait pas repéré l'existence de ce blocage-là. Mais s'il y avait autre chose qui nous coinçait, on était immergé dans d'autres problématiques. Ce blocage-là, il y était, mais on était coincé nous dans notre conscience, dans d'autres problématiques. Ça prouve simplement qu'un premier travail de théorie a déjà été fait, on trouvait une certaine identité, mais un deuxième travail de théorie a fait, et petit à petit, l'élargissement du travail, donc l'identification, se rétrécit. À force de faire ce travail de pire. Voilà. Je voulais vous apporter le tableau correspondant, mais je me suis trompé. C'est pas là, je le donnerai la prochaine fois. C'est un travail de spire. Voilà, et donc à partir du moment où on a commencé ce travail de guérison, au bout de quelques mois, finalement 5 ou 8 mois à peu près, ça dépend du reste du type de problème auquel on peut attaquer. Bah, au bout de 5-8 mois, on constate pas, tiens, que, il y a quelque chose qui coince. C'était très bien, je suis très content de ce qui s'est passé depuis un an, mais il y a quelque chose qui coince. Ah, ça prouve qu'il faut s'attaquer encore à quelque chose de plus précis. Il faut revenir donc à la première étape de la prise de conscience par rapport à ce point de vue-là, et donc revenir à l'horizon, revenir à la prière, revenir à cette espèce de demande à l'Esprit Saint de nous faire rentrer dans ce regard de Jésus sur ce blocage, sur ce phénomène que je constate en moi, que je constate autour de moi. Donc vous vous rappelez, première étape, prise de conscience, bon, je ne vais pas revenir dessus, première étape, prise de conscience, deuxième étape, je dissocie en moi le fait que finalement, dans un premier moment, je constate, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une guérison est nécessaire, qui implique forcément une certaine renonciation. Il faut que je renonce sûrement à quelque chose. Que tout blocage, toute maladie, si vous préférez, au sens étymologique, c'est-à-dire tout mal, qui est en moi, et que je n'arrive pas. Donc, que je n'arrive pas à dissocier ce moi, implique donc un renoncement que je n'ai pas fait, ou un moi égo-captatif que je n'ai pas renoncé. Il y a lâcher prise, je ne sais pas faire. L'égo dominateur, whisper, est là sur un certain point. Donc, il y a un point sur lequel je n'ai pas lâché prise, et qui est mal. Enfin, c'est mal que je ne lâche pas prise. Pas bien. Du coup, je m'identifie, je dis, je suis bloqué. Forcément, dès que je constate ça, je dis, tiens, je suis bloqué. Et je ne suis pas capable de dissocier, de distinguer en moi, le je suis bloqué et l'acte, ou le comportement mental, ou le comportement affectif, ou les habitudes concrètes que j'ai, ou un acte que j'ai commis, mais vis-à-vis duquel finalement profondément je suis toujours d'accord, je ne suis pas demandé pardon, parce que pas profondément, donc c'est pas le cas. Qui est ce qui constitue lui-même la nature, la pierre, l'achoppement. Donc je dis, je suis bloqué, je n'arrive pas à voir quel est l'acte. Donc je ne suis pas encore capable de dissocier l'acte de la personne. Vous voyez, c'était la deuxième étape, c'est dissocier l'acte de la personne. Cette dissociation progressive. Et ensuite, bon, la troisième étape, la prise de distance, une fois que j'ai déterminé peut-être où est la partie pure en moi par rapport à ce blocage, il y a en moi une partie pure qui est libre par rapport à ce blocage, et une autre partie en moi, de moi-même, de ma vie intérieure, qui n'est pas libre par rapport à cela, et il y a cette dissociation entre les deux, et c'est déterminé là, correspondant à ce qui est à l'origine de mon esclavage, si vous voulez. Dans un troisième temps, donc, la troisième étape, c'est la prise de distance. Je prends distance par rapport à ce vécu malsain. Ce n'est pas des mots qui sont juste là, ceci-là. C'est un vécu malsain. Vous comprenez, c'est très difficile de dire de trouver des mots. La prise de distance. À partir du moment où je fais distance, je m'aperçois que ce qui est encore pur en moi par rapport à ça, mais, me fait voir un fil rouge de toute ma vie. Je retrouve toute ma vie en fonction de cette dissociation et j'aperçois que, eh oui, j'ai été mené par Dieu à travers cette méandre-là, mais il y a un fil rouge de ma vie à partir des parties pures de moi-même par rapport au blocage en question. Donc, je redécouvre une histoire simple au lieu de faire donc de ma vie une histoire dramatique, tragique, parfois, certainement. Et donc, je peux arriver à l'étape suivante, qui est le recadrage positif. Mais ça, vous vous rappelez, on l'a déjà vu, puis le cinquième aspect, c'est qu'une fois que je recadrais positivement, je vois ben, finalement, c'est bien, c'est pas négatif du tout, c'est à travers ça que je découvre en moi cette capacité donc, de dépassement et d'un amour nouveau et plus profond, et par conséquent, je cherche les ressources nouvelles, les énergies nouvelles, et je vais prendre les forces là où elles sont, et là où je ne les prenais pas. Donc une nouvelle manière de prier, par exemple, pour nous, une nouvelle. Je vais demander, par exemple, dans la confession, à Jésus confesseur, à Jésus confesseur, à Jésus rédempteur, et au mystère de la confession de Marie, je vais demander des forces qui conviennent, que je n'ai jamais demandé, hein, je vais les puiser. Dans les sacrements, je suis dans le fruit des sacrements, tous les fruits des sacrements qui correspondent à ce dont j'ai besoin. Des ressources nouvelles, une nouvelle manière de prier, une manière moins extérieure, avec moins de dévotion, une manière plus théologale, une manière qui est plus dans la direction de l'union transformante. À ce moment-là, je suis en contact avec cette source vivifiante. Et je retrouve cette énergie nouvelle dans le lieu où je ne la trouvais pas. Le lieu où je ne la trouvais pas, c'est que je me suis bloqué là, je suis séparé de cela. C'est seulement dans cette séparation que j'ai trouvé une nouvelle source. C'est ça, hein, les ressources nouvelles. D'énergie. Et à partir de là, je vais choisir de coopérer avec Dieu. Parce que je comprends que Dieu est là, la souffrance était pour moi un obstacle, la croix devient pour moi une source. Alors, cette coopération avec Dieu va comporter au fond la septième étape qui est l'acceptation de l'oblativité, c'est de m'offrir, de m'offrir ça, et de m'offrir à travers ça, de louer, de retrouver la gratitude de Jésus, qui m'a choisi Père pour faire sa volonté, me voici, il m'a voulu mieux prendre le sacrifice, alors j'ai dit aussi je viens pour faire sa volonté, Jésus est prêt à pris tout corps, qui implique l'opacité, pour faire la volonté du Père, il a été choisi, prédestiné, pour être la mort de l'amour, pour être le bien aimé, le préféré. À travers cette opacité. Alors, à travers cette opacité, remercie d'avoir été choisi. L'opacité, quelquefois, va être source de louange, sur cette étape de gratitude. Et c'est dans cette gratitude que du coup je peux intercéder pour les autres. Si là, cette gratitude, cette louange, sans que ce soit, la présence de cette gratitude et de cette louange montre que. J'ai fait le recadrage positif et que, effectivement, j'ai changé ma manière de prier par rapport à et montre donc que je peux aller vers que je suis rentré dans le mystère de l'amour à travers quelque chose qui me bloquait par rapport à l'amour, au contraire c'est un moyen de l'amour. Pour nous, c'est un point de repère d'authenticité par rapport à notre démarche de conversion. C'est des gens qui ne veulent pas guérir. Moi, je souffre, je murmure, et je préviens comme ça, et je reste là-dedans. Je dis, Seigneur, quand est-ce que tu vas me guérir? Puis, oui, je préfère pas trop guérir. Ça, c'est l'étape de la prise de conscience qui ne fonctionne pas. Je ne veux pas guérir. Je veux pas. Enfin, je voudrais bien, mais je ne veux pas. Hein? Parce que là, ici, cette septième étape est intéressante, parce que du coup, si j'interfère à travers ça, ben, forcément, après, je m'aperçois que spontanément, je vais aider les autres. Je vais aller à l'hôpital. C'est spontané, si vous voulez. Je vais aller à l'hôpital, je vais visiter les prisonniers, je vais accueillir des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents, etc. etc. Je vais... Wow. Je vais bousculer tout. C'est tout ça. Je vais bousculer tous les obstacles. Non, vous comprenez, cette étape-là est intéressante. Elle montre que je sors, si vous voulez, de l'étape du moi égocentrique. Alors c'est à ce moment-là, comme je vous l'expliquais, qu'on commence le travail de deuil. Bon, huitième étape. On avait vu à travers le travail de deuil, il fallait respecter que lui-même, ce travail de deuil lui-même, avait un certain nombre de difficultés. Vous vous rappelez que d'abord, ma première réaction, c'est écrire s'il nous arrive une nouvelle catastrophe, hein, je pense par exemple à Nanou. Nanou se marie, il arrive toutes sortes de problèmes depuis toujours, etc. Tout le temps, une cascade d'événements. Et ça dure, elle est tout le temps comme ça, et bing, et boum, et à chaque fois, héroïquement, elle s'en sort, elle dit, ça y est, c'est gagné, et boum, en fait, cette petite-là, qui est née, bon, elle s'en sort à peine. Et boum, le papa, donc Pascal, donc, il s'est pas tué, mais enfin, c'était quand hier, donc il est tombé d'une échelle, en plus.
Non.
Hein?
C'est un cheval qui s'est tapé.
Ah, c'est un cheval, donc il a fait un coup de crosse du cheval, enfin bon. Et il a eu la mâchoire broyée, il est à l'hôpital, enfin bon. J'en sais rien. Bon, c'est pas grave. C'est qu'un bras cassé, mais ça c'est pas quelque chose. Mais je suppose par exemple qu'il ait eu le crâne broyé par le sabot du cheval. Bon, un exemple. Alors, ce nouvel événement, vous comprenez, c'est à ce moment-là, vous voyez, on est dans l'étape septième de l'oblativité, et du coup d'aider les autres, d'intercéder, c'est ça. Je comprends. Prenons l'exemple de Nanou, bon, c'est pas l'exemple de Nanou, je prends, puisque je fais une supposition. Supposons donc que son mari va essayer d'aider un copain à récupérer son cheval, hein, et le cheval lui fonce dessus, et il y a une grande roulade, boum, dans les tempes, hein. Bon. Vous voyez ? Alors, à ce moment-là, c'est là que le travail de deuil peut se faire. Vous voyez, c'est encore un nouvel événement de malheur, qui est exactement semblable aux événements de malheur précédents, et c'est maintenant que le travail de deuil va pouvoir se faire grâce, parce que ce nouvel événement catastrophique arrive à une étape où mon problème est capable de se résoudre dans une conversion et un travail de deuil, où je vais pouvoir donc accepter de la société. Vous comprenez le processus ou pas? C'est difficile à comprendre, c'est bien, hein? Mais je veux dire qu'on ne résout pas un problème sur un circuit univoque. Vous voyez, en disant, je vais résoudre par exemple mon problème par rapport au fait que j'ai cru porter une enfant qui était un monstre. Et je vais aller jusqu'au bout du travail de deuil et faire le cercle complet. Non, c'est pas par rapport aux événements un travail complet de guérison. C'est par rapport à un mal qui est en moi. Et que ces événements logiques révèlent éventuellement. On va pouvoir faire avancer. Vous voyez ? Donc ça, c'est un point important quand même à repérer, parce que c'est pas en pratique, hein, c'est qu'on essaie de discerner. Voilà. Donc la première réaction, dit encore moi ? La première réaction, encore moi ? Non, c'est pas possible. Hein ? La deuxième réaction, nous l'avons vue. Hein ? Ah non, c'est pas possible. Alors on a envie de fuir, on a dit non, c'est pas possible, on veut fuir l'événement. Non, ça c'est pas possible, je veux pas le voir. Premier moment, c'est normal, hein, c'est normal. Donc, l'important, c'est important qu'il y ait cette réaction. Il faut qu'elle soit là. Donc, bon, il faut fuir. Mais enfin, également, il faut revenir. Hein. Il faut donc reprendre l'événement comme il est. Bon. Là, deuxième sentiment, c'est de dire, bon, ben oui, puis c'est la révolte. Donc, on reprend l'événement, mais on se révolte. Mais vraiment, Seigneur, tu es beau. C'est dégoûtant, quoi. C'est dégoûtant, je fais tout, et voilà, et bon, hein. Pascal, il a un crâne fracassé. Il a un crâne fracassé, c'est ça. Marqué, c'est bien fait pour lui, mais...
Non, 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 mais...
Non. Bon, allez, avouez que c'est... Eh, Nanou, elle dirait pas c'est bien fait pour lui, elle dirait, c'est vraiment dégoûtant. Donc c'est le deuxième sentiment de révolte, bon, c'est ce que nous avons vu. Bon, et donc c'est normal qu'il y ait une révolte. Si quelqu'un, alors qu'il en arrive à une étape, il peut arriver à cette étape comme de deuil par rapport à son ego. C'est assez important ces moments-là, puisque c'est peut-être l'occasion pour l'ego d'être vaincu, hein, le fameux ego. Hein. Le fameux moi. Donc c'est normal que cette réaction de révolte, donc si vous voyez une réaction de révolte, peut-être que vous connaissez ça, et là, il faut laisser cette révolte s'exprimer. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que ceci se demande toujours à travers ça. Écoute, il y a au fond, derrière cette révolte, au sein de cette révolte, l'appel de ceci, comme la sève au centre d'une écorce. C'est ça? Est-ce que tu acceptes encore de suivre? Suis-moi, je suis là, suis-moi. Alors l'important, c'est pas qu'il y ait une c'est pas de basse volonté. Ça, c'est pas bien du tout. L'important, c'est de ne pas rester dans la révolte. Alors, il faut laisser la révolte s'exprimer, aller jusqu'au bout d'elle-même. Mais il ne faut pas y rester. C'est pas s'accumuler, augmenter, vous voyez, à ce moment-là, je refais à nouveau de ma vie une histoire de drame, et donc je retombe dans la formation d'une identité néo-formée. Vous rappelez, dans ce schéma initial, c'est notre déstructuration de la mémoire. Oui, tout à fait, c'est un travail de deuil. Si vous voulez méditer le travail de deuil dans l'écriture, c'est évident que c'est le livre de Job. Le livre de Job reprend toutes ces étapes de manière très claire. Le livre de Job, très simple. Donc, on voit bien que les amis de Job, par exemple, refusent que Job se révolte. Lui qui n'a pas le droit de se révolter. Qui es-tu pour se révolter contre Dieu? Et d'ailleurs, Dieu fera le reproche aux amis de Job en disant, comment ça, vous? Et Job aussi leur dira, mais alors, vous ne comprenez rien. Donc, Job va jusqu'au bout de sa révolte, mais il n'y reste pas. Vous voyez, ça c'est quand même très important, et sur le plan concret. Donc, oui, alors il y a des petites phrases comme ça qui aident. Allez, bon, ben va. Vous dites à quelqu'un, bon, allez, vite ton sac, allez, vas-y, vite ton sac. Allez, je dis, je sais pas moi, allez, crie, vas-y, crie ta révolte, hurle. D'ailleurs, quand dans les groupes New Age, c'est ce qu'ils font. Ils proposent des choses comme ça. Ils mettent les gens ça, en cercle avec une balustrade comme dans un ring de boxe, hein, autour, et puis on met un matelas au milieu du ring, enfin c'est pas un ring parce que... Et puis on fait venir quelqu'un et puis on lui dit bon bah allez vas-y, hein, crie ta révolte. On est là ensemble pendant 8 jours, hein, et ensemble. Hein, bah, alors, chacun raconte son histoire, puis c'est ça, ouais. selon des étapes de ce genre. Oui. Et puis à un moment, l'étape, donc, allez, hop, tu vas dans le ring, tu dis, bon, voilà, ouais, moi c'est ma mère. Bon, ben, hop, hop, on balance un oreiller, t'en vois là ta mère, elle écrit ta révolte, ça va. Et on crie sa révolte contre sa mère, on crie sa révolte contre, je sais pas qui, quoi, contre son mari, contre son frère. Mais... Et alors, il rentre, il roule, il perd, il a une colère folle, etc. Et après, la révolte aboutit, troisième étape, c'est le deuil à la colère. La colère, cette agressivité qui va jusqu'au bout. Mais heureusement que cette colère est là parce que quand on est, si on reste toujours dans un état de murmure, de révolte et de fuite, donc fuite, révolte et murmure, on finit par désespérer. Oui. Et le désespoir fait qu'on perd toutes nos forces. C'est ce qu'on avait vu ce samedi, ce qui était là, un phénomène d'inhibition. On perd toutes nos forces. Donc, Alors, la colère est bonne pour ça, parce que une sainte colère, si vous voulez, la colère devient de plus en plus raisonnable, quelque part à un moment donné. Et du coup, grâce à ça, à travers la colère, on retrouve des forces pour persévérer, pour trouver le courage et la persévérance. Et il y a une étape de colère. Et cette colère, bon, je ne sais pas comment dire. Cette colère nous donne la force de nous battre. De nous débattre. Et du coup, il y a une source de courage. Vous voyez ? Donc la grenouille, n'est-ce pas ? Elle va et elle se retrouve, donc au lieu d'être noyée dans l'eau, dans le lait, elle commence à me prendre pied sur le beurre, en force. Donc ça devient. En grâce à ce lait qui l'a noyé, elle prend pied sur un beurre qui au contraire la nourrit. N'est-ce pas ? Et qui huile d'ailleurs tous les gens qui ont besoin de beurre, c'est très agréable. Voilà. Et elle dit croix. Elle dit croix. Quoi ? Chic alors. C'est ça. Faut expliquer aux enfants, c'est bien ça. Ça y est, je comprends, ça y est, quelle est la porte du ciel, n'est-ce pas ? Et du coup, il y a la constance, c'est ça la constance, la fameuse constance de Saint Jean. Ce mot constance est très important. Le seul dans l'évangile, le seul évangéliste, le seul auteur du Nouveau Testament qui a encore le mot constance, c'est Saint Jean. Constance, celui qui se tient debout, staré, avec Jésus crucifié. Marie est dans la constance, elle est sabbat mater et debout au pied de la croix, avec Jésus crucifié. Elle laisse rentrer la colère de Dieu, la colère psychologique laisse place à la colère de Dieu, colère d'amour, colère de miséricorde, fureur de victoire contre l'impatience, fureur extraordinaire de pacification contre la colère, le mal, contre le dragon rouge feu qui détruit. Vous voyez, ça c'est la constance. Alors, c'est la colère qui permet ça. Alors la colère, vous voyez bien que c'est un descend du Sinaï. Vous voyez bien que la colère de Moïse, c'est quand même, dans les traditions, on dit souvent que Moïse n'a pas pu rentrer dans la terre promise. À cause des eaux de Meriba et à cause de la révolte des enfants d'Israël aux eaux de Meriba. Mais il y a une autre d'autres traditions que moi j'avais connue quand j'étais enfant. On avait dit que c'est parce que quand il était descendu du Sinaï, il s'était mis en colère, il avait brisé l'étape de la loi. On disait ça, et donc il a fallu que Dieu refasse une deuxième fois l'étape de la loi lui-même. Alors Dieu a dit, donc il y aura un Ancien Testament, et c'est toi, mais tu n'as donc pas accès au terme, puisque tu l'as brisé, Et ce sera un autre qui sera le deuxième, le Nouveau Testament, et ce sera pour toi. Voilà comment nous expliquer ça. C'est amusant, mais je sais pas si c'est amusant, c'est beau. Il semble que la colère de Moïse, c'était pas par rapport à quelque chose qui était en lui. C'était par rapport à ce qu'avait fait le peuple d'Israël. Donc je dirais pas que c'est la... Mais néanmoins, ça l'a touché lui, parce que c'est lui qui était responsable du peuple d'Israël. Donc, l'événement l'a touché. Ça a produit... Non, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils font ? Donc la suite. Puis finalement, il descend quand même avec table de la loi. Bon, c'est la révolte, il se révolte contre Aaron, on le voit bien. Et après, par colère, il brise des choses. Effectivement, on voit ces étapes-là, si vous voulez. Mais est-ce que ça a résolu quelque chose ? Est-ce que ça l'a mis dans une certaine confiance ? Ça a été obligé de le mettre dans une patience, une persévérance, une confiance en Dieu, ça sûrement. C'est vrai, on peut lire ce passage de... Il faudrait lire, par exemple, le passage où Jésus se met en colère dans le temple de Jérusalem. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui... On voit bien que la Vierge Marie, est un peu en colère contre Jésus quand il est dans le temple à 12 ans. Ça dit quoi ? Pourquoi tu nous as fait ça tout de même ? Tu nous fais que... C'est vrai, pourquoi tu nous as fait ça ? Il y a une colère, c'est une colère mariage, mais... C'est quand même une colère. Et puis... Tout ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il y a ? C'est Jésus est soumis, une constance, une vie cachée, continuer pendant les années, j'entends plus. C'est extraordinaire, comme cette colère source, cette constance source, cette persévérance source, cette continuité. Oui, je crois que c'est important. Voilà. Effectivement, si, ben voilà. Mais ça, on l'avait vu, je crois. Cette colère profondément, ça c'était un processus psychologique, mais ça révèle quand même tout un processus spirituel aussi. On reçoit des coups, on trouve que c'est injuste, c'est pour ça que la colère apparaît. Et du coup, quelque part, profondément dans notre identité, parce que nous on est chrétiens spirituels, dans notre identité spirituelle, pour les adorateurs, cette colère, si elle va jusqu'au bout, si elle nous prend tout entier, ben finalement on se rend compte qu'elle s'adresse à Dieu. C'est contre Dieu qu'on est en colère. Et on se dit, ben voilà, on se dit, puisque c'est comme ça, Seigneur, ben tu m'as peur à quelque part, il y a quelque chose comme ça. Attention, c'est quand c'est colère qu'on se laisse prendre. Et si on est chrétien, c'est comme ça. À un moment donné, je pense qu'on parle avec le deuil. Si on est chrétien, forcément, si la colère est jusqu'au bout, on saisit très très bien que c'est contre Jésus qu'on en a, ou contre Dieu. On saisit bien. On je ne sais pas si on saisit bien, mais enfin, en tout cas, on saisit. D'ailleurs, on le dit. Seigneur, vraiment.
Si on veut réagir comme ça, on s'en prend
bien. Justement, c'est contre Dieu. C'est contre Dieu qu'on se réagit profondément. C'est contre Dieu, parce que c'est vrai que c'est contre Dieu qu'on en a. Souvent, quand on n'est pas mûr et qu'on n'a pas mûri son travail de deuil, on transpose cette révolte, cette colère contre Dieu en une colère contre celui qui est plus proche de nous. Et du coup, boum, ou alors contre le diable, mais c'est ou alors vis-à-vis du diable, mais parce que, oui, ben, mais c'est une transposition contre le diable, c'est une transposition, hein, parce que vous préférez vous attaquer au diable qu'à votre épouse. Mais profondément, c'est contre Dieu qu'on en a, et c'est vrai, parce que c'est cette fameuse paix extraordinaire, cette fameuse douceur extraordinaire, cette fameuse omniprésence, amour extraordinaire dans nous, qui est en nous de Dieu, et que nous gardons depuis l'instant de notre création, dans notre mémoire ontologique, qui s'est fait brutaliser, parce que tout, et Dieu a laissé faire, pour donner par le pécheur originel, cet éclaircissement, ce fait que toute une vie, ça fait quand même 45 ans que ça dure pour moi à la maison. C'est épouvantable. Alors, C'est vrai, Dieu a laissé faire quelque part. Bon, il a laissé, il s'est caché derrière le visage paradoxal, c'est-à-dire de la mère, ou du prochain, de l'époux, des gens qui rentrent dans la famille, de se rapporter, etc. Le visage paradoxal, Dieu se cache derrière ça. Pas, alors, si quelque part, on envoie Dieu, tu aurais pu choisir une autre belle-mère.
La colère, en fait, c'est l'amour.
Alors, oui, tout ça, c'est un cri d'amour. Donc, il faut aller cette colère et comprendre que cette colère, profondément, c'est ce qu'on verra d'ailleurs à travers la prochaine fois, à travers les événements analogiques, finalement, et les racines de la mer, que finalement, c'est Dieu à qui on en veut consciemment, enfin, profondément. C'est à lui qu'on en veut, évidemment, pas à la belle-mère. C'est ça, la pauvre. On sait très bien que c'est pas de sa faute. Et on la plaint beaucoup. C'est comme ça. Si on regardait bien. Bon, si on regardait bien, on verrait bien que la pauvre, elle se dépatouille et qu'on ne voudrait pas être à sa place, c'est trop con. Vous comprenez? C'est évident, hein, c'est évident. On ne voudrait pas être aussi lamentable que cette pauvre belle-mère. Donc c'est pas à elle qu'on en veut. C'est à Dieu qu'on en veut, parce que Dieu, il veut que notre amour dépasse de ces obstacles, qu'il soit victorieux de tout ça. Comme le nom du Christ l'a été, précisément à ce moment-là, la beauté donne la candeur à travers précisément ce qui lui apparaît contraire. L'amour de Dieu et l'amour du prochain en une seule victoire, c'est la victoire de la résurrection. Alors, du coup, puisque tu as encore un coup, hein, le crâne brisé par le sabot d'un cheval. Dis encore ça, le Seigneur a vraiment tué. Tu pousses un peu. J'ai des limites à mes capacités de résistance. Là, je craque. Faut pas déconner. Dis Seigneur, non. Moi, je veux bien, mais pas trop. Je ne peux plus. Ah, je me mets en colère, comprenez? Il dit, tu te fais payer, tu me fais... Tiens, eh ben, tu vas le payer. Tiens, moi j'en ai marre, je laisse tomber. Je me révolte quand je me mets en colère contre Dieu. Alors, je découvre ceci, au fond de tout ça, tu veux que ce soit moi qui te paye, à l'instant, par qu'est-ce que ça me dit. Et je découvre que Jésus dit, ok, je paye tout. Jésus est braillé. Je découvre Jésus est braillé à la fin. Que Jésus attendait ce moment pour me faire comprendre que son cœur braillait, c'est pas à cause du démon, mais c'est pas à cause de Caïphe. C'est bien à cause de moi que ça braillait. Et il accepte de payer. Que Jésus braille à cause de mes péchés. Et je préfère ça, je comprends que c'est pas avec mes forces que je trouverai la confiance et la persévérance, mais c'est avec le cœur de Jésus braillé et la force de Dieu. C'est que le cœur de Jésus est croyant, et que du coup il ne regarde que le Père. Ah, la conversion qui commence à venir, vous comprenez. Et une fois que je découvre ça, à ce moment-là, je passe à l'étape suivante pour les deux, qui est la tristesse, et du coup je pleure. Et c'est là que j'expérimente, pour la première fois, en don du Saint-Esprit, et le don. Que bienheureux les accusés, bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Alors je pleure. Je pleure parce que du coup je sais que je me détache de quelque chose, de quelqu'un, d'une certaine manière que je concevais le bonheur. Ça, le travail de deuil est absolument quelque chose de très... Vous voyez qu'il n'est pas facile, hein? La tristesse. Alors pareil, si vous avez des gens qui sont à côté de vous, et qui ils ont le droit d'être tristes, ils ont le droit de pleurer, il faut accepter de prendre les bras de quelqu'un. C'est un peu à l'alarme, hein? Là, c'est plus un peu plus relatif. C'est si vous faites ça. Ça, c'est beau. ça arrive, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais... à quelqu'un qui pleurait. Et du coup, vous aussi, vous pleurez. C'est pas grand. C'est grand, ça. Et c'est le marvel, cette petite histoire que raconte une petite allemande. C'est qu'à un moment, il s'agit dessus. Il retourne dans un pays là-bas, du côté de Bethléem, là-bas, mais derrière les choses de Bethléem, des collines, de l'herbe. Il retrouve la tribu des bergers, ceux qui gardaient les porcs 35 ans avant, et c'est venu à la crèche. On arrive à Jésus, puis les bergers racontent ça, lui dit pas qui il est. Et puis, ben, à un moment, ils se mettent à pleurer parce qu'ils n'ont jamais reçu tout ça. Ils n'ont jamais reçu. Alors, ils pleuraient, ils pleuraient. Ils pleuraient vraiment. Puis, vous savez, quand vous pleurez, vous ne voyez plus à qui vous parlez. Alors, tout ça. Puis, Jésus n'était plus là, et puis, il le cherche. Il était au milieu d'eux, il pleurait. Je trouve ça très beau. C'est extraordinaire. Magnifique. Et pleurer avec quelqu'un qui pleure, mais de cette pleure-là, vous comprenez cette tristesse. Cette étape-là, entre la tristesse, vous le voyez bien, il y a toujours quelque chose qui se passe, c'est à travers ces larmes. Le lâcher-prise ne vient pas de suite parce que, on dit, finalement, il y a un phénomène d'acceptation. C'est bon, j'accepte, mais à condition que... Ça, bien, c'est la fameuse petite étape du marchandage, mais à condition que son mari gagne d'abord minimum 30 000 francs par mois. Tu fais un marchandage. C'est merveilleux, ça. Je me rappelle que quand j'étais à Paris, il y avait une... C'est charismatique, hein. C'est charismatique beaucoup. Hein. Voilà, à propos de guérison, vous attrapez une fille, une amie, Guylaine, elle avait un cancer, elle attrapait un cancer. Mais elle avait le même âge, elle était jeune, donc elle avait une vingtaine d'années, enfin, 26 ans. C'est pénible, alors. Une raison, en 35 ans, 20 ans, elle chauffe. C'est terrible. Et puis alors, étant qu'elle était sympa, alors on disait au début, on disait, c'est le Seigneur va le guérir, il faut avoir la foi. Elle aussi. Elle disait, bah oui, c'est grâce à mon cancer que je découvre Jésus, que je découvre que je n'ai jamais été aussi bien avec Jésus, et je suis sûr que Jésus va le guérir. Il y a comme une, je ne sais pas comment dire, souvent on voit des charismatiques qui disent, arrête tes médicaments et puis je vais te guérir. Je ne sais pas, il y a quelque chose d'équivoque quelque part. Bon, finalement, on a entouré, on était tout le temps là, on faisait des prières pour la nuit, on se réveillait. Heureusement, on était une quarantaine de jeunes à prier tout le temps sans arrêt pour elle. Puis elle est décédée, justement. Non. Voilà, donc le marchandage, c'est pour nous se servir de la foi, quelque part, en disant peut-être qu'avec plus de foi, je vais évacuer la croix. Je vais rentrer plus profondément dans le cœur de Jésus broyé, je vais dire les oraisons de Sainte Brigitte, et comme ça, ça va en... Je vais évacuer un peu plus. Vous voyez, une espèce de marchandage, il faut sentir ça. Il faut sentir cette histoire-là. Et je crois que, bon, cette étape de marchandage, je pense que, comme toujours, hein, c'est ça qu'il faut toujours se rappeler, c'est qu'il faut respecter les étapes. Donc, qu'il y ait une étape de marchandage, c'est pas mauvais. Il faut qu'elle soit, parce qu'effectivement, il faut qu'on ait une foi qui débouche sur l'espérance. Donc, la foi ne va pas évacuer la croix, mais la foi va déboucher sur l'espérance. Je suis dans une situation où, effectivement, il faut que je garde quand même l'espoir par rapport au mal que j'ai. J'espère que ce mal humain ou terrestre va disparaître. Il faut garder l'espoir. Mais en même temps, faut rentrer dans l'espérance. Et l'espérance, c'est par rapport à un mal terrestre qui n'est pas supprimé. L'espérance ne supprime pas la croix. L'espérance, c'est l'au-delà de la croix, lorsque la croix est jusqu'au bout d'elle-même. Hein. Donc, c'est une ligne de crête très difficile. Le fameux chemin étroit, ça, la porte étroite, ça y est. Cette étape de marchandage, elle te permet de voir que tu débouches sur une ligne de crête et qu'il ne faut pas que tu ailles ni à droite ni à gauche. Tu gardes l'espoir, tu rentres dans l'espérance. Et c'est ça, l'étape du marchandage, c'est de sentir, quand tu vas passer le précipice, si vous voulez, de la guérison, que tu rentres sur une ligne de crête très... Et donc tu passes au fond quelque part, moi je dirais que tu passes de l'esprit de science, si on aurait les accusés, à l'esprit de crainte. C'est le crainte, Seigneur, bienheureux les pauvres spirituellement qui sont appelés dans le Fils de Dieu. Et on fait cette expérience intérieure très extraordinaire, c'est l'esprit de crainte de Dieu. On en était là, je crois. Très bien, alors continuons. Alors vous voyez bien, la tristesse, je ne reviens pas dessus, parce que donc je n'avais pas vu la tristesse. Après la tristesse. Alors vous voyez bien, quelqu'un qui est dans la tristesse, vous l'accompagnez, donc je reprends. Moi je croyais que l'on l'avait vu, mais donc je vous lis et puis bon, je commence. Donc souvent un frère va vous dire, voilà, vous êtes triste, vous pleurez, etc. Et vous dites, pour l'aider, il faut que je remue un peu. Hein. Alors, je veux dire, non, t'as pas le droit d'être triste, ne pleure pas, enfin, courage, etc. Vous voyez bien, souvent on a cette tentation de... Eh ben non, faut pas faire ça. Enfin, si quelqu'un est vraiment dans la tristesse, il faut pas lui dire, t'as pas le droit de pleurer. Il faut quand même lui donner, donc, le temps de pleurer et d'être triste. Et il faut lui donner tout le temps. Tout le temps nécessaire. Bon. Après, donc, vient un sursaut de courage. Et alors, je dis, très bien, Claude, si vous croyez, toi et moi, j'ai dit ça. Ok. Il y a une certaine acceptation, après l'expérience du don de science, pas de nom exactement. Je dis, ok pour moi, mais si je prie, est-ce que tu sauveras mon mari, est-ce que tu sauveras, ok pour moi, ça va. Donc, si je fais ceci ou cela, est-ce que ça va s'arranger? Alors, voyez bien. Ok, mais j'espère que du coup, ça va aller mieux par ailleurs, n'est-ce pas ? Et c'est l'étape du marchandage. Donc Dieu va me guérir si j'accepte, si je crois. Si je dis oui, bah, j'espère quand même qu'il fera quelque chose pour moi. Et que ça va changer. Voilà. Finalement, vous voyez bien, on dit, bon, il faut que je me devienne un saint, j'accepte de devenir un saint, mais du coup, j'espère que ça va changer, j'espère que les choses vont se modifier. Ben oui, c'est vrai, c'est sûr que Dieu va intervenir. C'est évident, si je me convertis, il aura plus de liberté pour intervenir, c'est trop clair. Mais il ne va pas intervenir sur le champ qui correspond à ma prise de conscience antérieure. Il va intervenir sur le champ plus intérieur, plus profond. Il va intervenir à sa manière. Et il va clouer ce mal là, sur... ma croix, parce que j'ai accepté d'être croix dessus, et ce mal va être cloué dessus. C'est évidemment paradoxal, mais c'est comme ça, comme sur celle de Francis. Voilà. D'une façon que je ne comprends pas, mais qui entre dans la sagesse de la croix, eh bien, par la puissance de son Fils crucifié dans ma vie, il va intervenir. Il va intervenir un peu comme il intervenait à travers, par exemple, Marc Robin, ou dans les petites marques. Bon. Pourtant, il ne faut pas en même temps aller trop vite avec ça, et se dire ça trop vite, n'est-ce pas? Ça, c'est l'Esprit Saint qui se fait en nous. Vous n'avez pas, on n'a pas à faire le travail de l'Esprit Saint nous-mêmes. Hein? C'est l'Esprit Saint qui se fait en nous. Nous, il faut qu'on vive tellement cet acte de marchand de Seigneur, en revivant, en réoffrant, en disant oui, en se révoltant à nous, Seigneur, parce que c'est quand même dur, aide-moi. Hein? Fais quelque chose, moi je veux bien tout faire, et tout subir, mais jusqu'à ce qu'à un moment donné, effectivement, mon mal, ma souffrance, soit transformée en croix, et que je réalise, sans que j'ai besoin de m'en persuader, que je suis au fond une plaie vivante, et que cette plaie vivante est la plaie vivante, c'est Jésus qui est cette plaie vivante, qu'il n'y a plus de différence entre vous et moi d'une certaine manière, que c'est lui qui a voulu s'unir à moi de manière telle qu'il est une seule plaie, et Jésus est une seule plaie. Vous voyez bien? Mais en même temps, il ne faut pas empêcher cette étape de marchandage, parce qu'il ne faut pas empêcher l'espoir, vous comprenez? Il faut qu'il continue de marcher sur cette terre avec le plus grand espoir possible, la confiance même dans la providence de Dieu et dans ce monde, c'est normal. Voilà. Tout prétexte, il faut avoir la foi. Voilà. Parce que si vous faites comme les faux amis de Job, qui disent tu n'as pas assez la foi, tu n'as pas accepté. Ah, tu t'es pas complètement assimilé à la providence de Dieu. L'événement, tu ne l'as pas intégré, alors à ce moment-là, tu risques de faire rentrer celui qui est dans cette étape en disant tiens, il faut que tu. Mais soit disant, tu es chrétien et tu réagis comme ça. Comment? Et qui est là, hein? Ah, voilà. Ah, tu es moine et. Ah, tu refuses de te convertir. Oui, mais si tu fais comme ça, tu risques de transformer le point de vue donc du marchandage, espoir, en désespoir. Parce que c'est d'ailleurs c'est le risque des faux anecdotes. Finalement, ils engendraient le désespoir, alors qu'ils n'étaient pas dans le désespoir. Et dans leur époque, c'est un peu différent, c'est dans le marchandage, finalement, c'est ça, mais. Voilà. Donc il faut respecter ces états pour ne pas être le coupable de celui qui va engendrer dans l'autre le désespoir. Alors il y a un malade qui est en train d'agoniser, qui racontait à notre ami Bernard, qui disait ça, je vais vous dire, c'est très beau, il était en train d'agoniser. Vous savez, quand les gens viennent, les chrétiens, ils vont vite, ça, voilà. Très difficile hein, de parler, de savoir trouver les mots et tout. Les présences et tout, hein, les écrits comme ça, je crois que c'est ça qu'il faut faire, simplement. Prier avec eux, prier en silencieusement, en bien visiblement, au moment où on est là. Et puis c'est tout. Mais enfin, quelquefois, il y a un peu charismatique ou dingo, bah, on dirait que c'est effectivement, il y a des trucs à. Il faut que ça guérisse. Là, qu'il y a des trucs qui sont passés. Hein? Alors, je crois que ça énerve les gens qui sont malades, qui sont au bord de la mort, hein? qui sont dans un problème, dans une situation où la vie peut basculer. Quoi. Enfin, c'est pas forcément la mort physique, hein? Ça peut être tout un pan de leur vie qui peut basculer. Alors lui, il disait ça, ce malade-là, qui est mort quelque chose. Il dit, je suis sur une ligne de crête. Je ne dois tomber ni à gauche, c'est-à-dire, bon, allez, je me laisse prendre par la mort. Je meurs, et puis c'est tout. Eux, quand on est malade, il faut résister à la maladie. Bon, allez, je vais tomber, et puis je meurs. La maladie, la mort, la désespoir. Donc, il faut que je ne tombe ni à gauche et ni à droite. À droite, je me cache la réalité, si vous êtes sûr, je vais en sortir. Ni à droite, ni à gauche, ni à droite. C'est beau qui je suis soumis de cette ligne de crête, c'est-à-dire où il faut que je garde l'espoir et que je rentre dans l'espoir. En étant les deux. Oui. Ça, c'est beau, c'est une très très belle situation. Beau témoignage d'un malade qui est jeune malade, qui est en train de se je suis sur cette croix et tout en moi craque. C'est moi, c'est bien moi. La vallée de l'ombre de la mort est sur moi. Plus personne ne peut m'aider. Le ciel se voile. Le secours disparaît. C'est la nuit. Plus personne ne peut plus rien faire pour moi. La foi, quelquefois, vacille. Le doute s'empare de moi. Alors c'est le temps de tour. Après le marchandage, c'est le tour. La période du marchandage, c'est bien une révolution de l'esprit. Vous savez, souvent dans les hôpitaux, on constate que les malades meurent. Quand les malades meurent, c'est à la fin de la nuit. Juste avant les premières lueurs de l'aurore. C'est là que les malades meurent la plus très très souvent. C'est à travers, après toute une nuit. La nuit d'après, première lueur, l'espérance. Comment c'est ça? Les portes de la mort. La mort s'ouvre sur la vie. Pas du tout. Mais pour ça, il faut quand même l'espérance. Hein? C'est une île de crête. Hein? Garder l'espoir et rentrer dans l'espérance. C'est-à-dire, de toute façon, je vais m'en sortir, ça va se préparer, le Seigneur est tout puissant. Tout peut se faire par la prière. Si Dieu le veut. Si Dieu ne veut pas quelque chose de plus grand que ça. Et probablement, il veut quelque chose de plus grand que ça. C'est ça, il faut se culpiser. Alors, je l'accepte ou pas? Ah, je ne veux pas accepter ça plus grand que ça, que c'est supérieur. Hop! C'est pour ça qu'il faut garder l'espérance. Donc, c'est là que peut-être j'avais raconté l'histoire de. Il faut toujours garder l'espérance, donc garder la main en haut. Et en fait, cette histoire extraordinaire, c'est un. Au bord de la plage, enfin de la plage, il y a un torrent qui coule, là, c'est large, mais il passe à travers. Le petit enfant est en train de jouer avec des amis, tout ça, d'autres enfants, de plusieurs familles, et la petite fille de Bernard, c'est arrivé à mes cousins, comment il s'appelle-t-il ?
Bruno.
C'est plus personne, cette petite fille. C'est une petite fille, elle était jolie, c'est limpide, lumineuse, la quatrième, la quatrième, elle était, oh mon Dieu, que c'était très important de voir une petite comme ça. Puis, donc, il devait se rendre, et puis, il coule un peu fort, quoi. Et puis, à un moment, il coule un peu fort, alors donc, mon cousin Bruno, il me dit pas, mais la petite Florence, elle était là, et le grand coulait. À un moment, il lui prend la main. Et il dit, bon, il lui prenait la main. Il dit, ah, il a continué à aller dans le torrent avec elle. Et à un moment donné, donc, il a, je crois qu'il a lâché. Il a lâché la main. Il a dit, c'est parti. Et lorsque c'est que. C'est extraordinaire, cette relation entre le père et la petite fille, au milieu d'un torrent. Petite fille qui voit la main se lâcher. Je suis sûr, cette petite fille, elle est morte. Mais sinon, met la main en place. Elle est morte dans l'espoir et dans l'espérance. C'est évident, il y avait la relation avec le père, hein. Confiance incroyable. Et en même temps, son père va faire sa révélation, mais en même temps, il savait que son père. C'est évident que cette petite fille, il y a des signes extraordinaires. Que c'était son heure. L'avait atteint sa perfection. Je pense à une autre petite fille, 4 ans, pareil. Elle est dans la rivière, même contexte, etc. Je lui sens en train là, et il a dans sa tête quelque chose qui lui dit, et ma petite fille. Alors il cherche sa petite fille, il regarde, et il dit, bon, ça va, on est là, je suis dans l'eau. Et puis il dit, attends, la fille, et sa petite fille. Il a ça dans sa tête. Il regarde à nouveau, les enfants sont. Les enfants qui ont besoin de sa petite fille sont mis à part, et puis ils voient sa petite fille, et puis on personne. Il regarde bien, il voit des mains à la terre. Il court comme il peut. Il court du speed qu'il peut. Et la main reste là. Là, il fuit. Vous comprenez ça, il faut garder l'espérance, il faut toujours garder la main en haut. Aussi noyé qu'on soit, aussi foutu qu'on soit, il faut toujours mettre la main là, savoir que le père nous prendra, papa nous prend. Et il faut toujours garder l'espérance. Mais c'est beau le sermon qu'on a eu hier à Châteauneuf tout à l'heure. Gardez la main. L'amour ainsi du Père et du Fils qui descend dans mon cœur. Gardez l'espérance. Et je trouve que c'est beau de commencer sa journée comme ça, parce que, vous voyez, toute la nuit vient de se passer, l'aurore apparaît, je me réveille tout de suite. Je me tends la main vers Dieu. Commencer sa journée comme ça. L'espérance de la résurrection, ça danse pas, n'est-ce pas? C'est vivre déjà par la grâce de la résurrection. Je tends les mains. Et commencer sa journée en tenant les mains, après je peux rouler du tombeau, qui est mon lit, et me précipiter dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire dans l'oraison. Une petite technique, on va faire une secte, vous voyez, avec des rituels comme ça. Secte extraordinaire, avec des petits rituels très symboliques. Ouais. Je crois que le New Age, etc., fait ça, mais. Voyez bien, ils s'arrêtent au plan métapsychique, donc ils ne vont pas jusqu'à la paternité de Dieu, ils ne vont pas jusqu'au Créateur. Voyez bien, c'est les mêmes étapes, mais c'est métapsychique. Vous voyez, ce que je suis en train de faire avec vous, c'est de garder, je respecte les étapes de la guérison psychologique, si vous voulez, mais totalement incomplète, puisque ça ne guérit pas la source, ça ne guérit pas la cause, ça ne guérit pas l'identité profonde, ça ne guérit pas le péché ou le mal, ou ça, vous voyez bien, ça guérit pas, voyez. Et nous, ce qu'on essaie de voir, c'est d'aller jusqu'au bout, cette guérison, c'est qu'il faut guérir pas seulement les effets, mais aussi au fond la cause, c'est-à-dire le péché, quoi qu'il en nous, et il faut qu'on renonce à ce péché, quoi. Quelque part, bon, il y a un péché profond pour nous, les actes qu'on commet qui nous font honte, sont que des conséquences, donc il faut repérer le péché en lui-même, là où je m'obstine. Je m'approche, hein. Ah, le Seigneur, tu ne m'auras pas lâché. Hein. Et il y a ça, on serre des dents, je te jure. Le Seigneur, tu ne m'auras pas lâché. Je veux bien donner ça, mais pas non. Je veux bien, mon Seigneur, voilà. J'espère, hein, je veux bien. Mais. Là, on ne pas. Et on serre les dents. Oui, c'est bien qu'on me prenne pour une imbécile, mais pas trop. Voilà. Ah ouais, alors Dieu nous saisira si on tend la main. Hein? Donc ça c'est pour éviter dans ce moment-là de dire bon, tentation de suicide, hein, ou de tonnerre. Ah, je me laisse couler. Il faut savoir si vous êtes dans l'espérance ou pas. Vous avez maintenant un critère très précis, c'est si le matin, spontanément, vous levez la main. C'est ça. Par exemple, je suppose que ce soit un mari qui voit sa femme souffrir, agoniser, et dit. Et il dit, je décide que ma femme est un petit cocktail. Et elle n'a pas un mot à dire?
Elle le demande, souvent la personne le demande. Hein.
Pas le droit. Voilà, on est justement dans une ligne de crête, hein, c'est clair. Bon, alors, il ne faudrait peut-être pas que la personne réagisse en fonction de son refus de la souffrance de l'autre. Voilà, donc ça, c'est pour ça que moralement, c'est quelqu'un qui est proche, n'a pas le droit, parce que psychologiquement, il est incapable de prendre une décision qui correspond au désir profond spirituel de l'autre, d'accord ? Il en est incapable parce qu'il aime trop, donc il faut engager, et donc il risque de prendre une décision parce qu'il ne supporte pas d'avoir comme ça. Alors c'est un meurtre. C'est un homicide volontaire, et d'ailleurs, 10 ans après, 5 ans après, 4 ans après, crois-moi, ce bonhomme, il le sait. Donc, c'est dramatique. C'est un meurtre. Il sait qu'il est meurtrier. Homicide. Ah bon, il y a des exemples, hein, ça, hein, c'est des exemples. Hein. Moi, je posais par exemple un infirmier qui était catholique, pratiquant, etc., qui a fait un cocktail une fois ou l'autre. Hein.
De
sa propre initiative. De sa propre initiative. Il a dit non, mais là, c'est un cocktail. Ben. Consciemment, 9 mois après, il me dit moi, je ne peux pas rentrer dans la vie monastique, parce que je fais cocktail. De toute façon, il regrettait pas d'avoir fait, mais ça, il voyait bien que c'était pas possible pour lui de faire. C'est marrant parce que dans le droit canon on dit ça aussi. Hein. Le sacerdoce est interdit à ce qu'ils font totalement. Alors que non. Si tu as dans ta jeunesse, avec ce que tu as dit, tu as commis un avortement, et bien, c'est pas admis au sacerdoce. Alors, tu l'utilises, ça dans les textes. Donc, si tu es séminariste, tu vois ça, tu t'y prends. Et moi, je connais plusieurs frères, c'est pas l'année présente. Donc, ils sont partis. Et s'ils n'ont pas pris la décision par eux-mêmes, la décision est prise, pas à cause de ça, mais pour toute façon, ça fait ça. Ils sont partis, tout ça. C'est curieux, ce genre de meurtre. Alors, le problème de la ligne de crête sur l'euthanasie, le suivant, c'est que, d'un côté, il ne faut pas s'acharner, acharnement thérapeutique. Hein? Donc, c'est l'espérance, l'espoir, d'accord ? Donc, il ne faut pas s'acharner, l'acharnement thérapeutique est dégoûtant, parce que j'empêche, c'est moi qui ne supporte pas que cette personne souffre, et du coup, je vais m'acharner, en disant, en la faisant survivre, et finalement, je vais obtenir une survie purement végétative, et je vais empêcher, au fond, une mort naturelle, quoi. Je vais empêcher, dépenser une vie normale, une vie naturelle, une mort naturelle. C'est l'acharnement thérapeutique. C'est criminel par rapport à sa dignité de personne. Parce que je ne veux pas qu'il passe par l'angoisse. Ma sœur, elle est en train de mourir. Elle est morte, pardon, il y a 6 mois, m'a dit une jeune fille qui avait 18 ans. Ça, elle est morte il y a 6 mois. Bon, oui, j'ai aidé autant que j'ai pu pendant 1 an, j'ai la chance de etc. Ah bon, elle savait qu'elle allait mourir. Ah non, c'est toi qui savais qu'elle allait mourir. Ah bah oui, je savais. Donc, surtout, c'est interdit à qui que ce soit de lui dire. Hein. Même quand elle est morte, elle ne savait pas qu'elle allait mourir, mais c'est fou, c'est ça. Mm-hmm. C'était barré, ça, ou quoi ? C'est inouï. C'est inouï. Le mépris, quand même. C'est des gens qui, on croit quand même. Je sais pas, il y a une espèce. Ça vient pas de. Inhumain d'avoir fait ça. Alors elle n'a pas eu le droit à affronter la mort normalement. Il faut vraiment mépriser celui que soi-disant on aime. Soi-disant, il ne faut pas le faire souffrir. Il faut le mépriser avec un mépris d'une profondeur. Non, je lui dis, mais moi je veux te voir, détache mon mari comme ça. Tu m'as dit à mon fils. Ah non, je dis, qu'est-ce que c'est que ça, ta propre sœur? Et tu le penses encore? Je dis, ben, je ne peux pas te faire. L'euthanasie, donc tu vois, pas d'acharnement thérapeutique, c'est curieux, cette peur de la souffrance, tu vois, qu'est-ce qu'elle peut provoquer comme aberration au niveau de la sensibilité par rapport à ce qu'elle est tout à fait. Donc, ou bien l'acharnement thérapeutique, ou bien l'euthanasie. C'est invraisemblable alors que c'est et la vie, ça existe aussi. L'espoir et l'espérance, très bien. À ce moment-là, on a besoin d'amis proches dans ces cas-là. Il faut des amis proches, des frères qui vous entourent, qui disent tout simplement, traduisent par la présence, que Dieu est là. Le Père est là, une présence paternelle, la famille est là, on est sa famille, on s'entoure. Donc sa famille est là, la paternité est là, la présence paternelle de Dieu est là. On n'a pas besoin de dire, mais on ne dit rien, mais enfin on est présent. Et dans ces moments-là, c'est la seule chose qui est à faire. Quand j'étais jeune, on allait à Garches, mon frère Jumeau, il nous avait organisé ça. On partait de et puis on allait à Garches. Garches, c'est un hôpital, il n'y a que des jeunes qui sont assis en moto, alors qu'ils sont colonne vertébrale ici ou là. Et du coup, d'un seul coup, ils se retrouvent là, dans un lit paralysé ou sur une chaise roulante. C'est vraiment pour eux, disons, les jeunes complètement athées. Hein. Les religions chrétiennes ne connaissent pas, parce que pour la plupart, l'immense majorité, regardez, c'est combien d'entre eux disent, ça ne vaut pas la peine que je dise, ou combien de leurs parents, frères, sœurs, amis, fiancés, disent, c'est même pas la peine qu'ils disent. Mon propre ami, qui s'appelait Jean Michel, qui a eu un accident de mobilette à 16 ans, on nous appelait les trumeaux, mon frère. Il y avait miné dans lequel, et puis il m'enlève des trumeaux. C'est extraordinaire cette histoire. Et puis il prend sa mobilette, écrasé par un camion. Là, son papa, bien sûr, il a été écrasé au niveau du bassin. Quoi. Ben, à un moment, le médecin a dit à son papa, alors, on sait, il ne retrouvera jamais ses activités génitales sexuelles, sa paralysie des jambes, il a dû dépenser. Catholique, pratiquant. Oui, ça vous dit. Oh, mais. Alors, on allait à Garches, on voyait des jeunes comme ça. Évidemment, in extremis, ses parents n'avaient pas dit, il est branché. Et pourquoi? Parce que quelqu'un a été voir le papa, la maman. Et puis il y a des jeunes qui viennent de voir l'extérieur et qui comprennent que tiens, les amitiés se nouent. Les nouvelles amitiés, les autres, on laisse tomber. C'est devenu triste. C'est un crottin, je ne sais pas. Bon, quelquefois on voit l'admirable, le fiancé qui continue et qui va se marier avec la fiancée alors qu'elle est. Avant ils étaient copains, mais du coup, grâce à l'accident, ils se fiancent. Et ils vont se marier, alors qu'elle est sur ça. Ça fait des choses magnifiques, bien sûr. C'est pas facile. Hein. Mais. Alors, on dit des choses qui sont vraies. Parce qu'on dit, mais tiens, depuis que je viens de voir, moi je suis étudiant, je ne savais pas ça, comme toi avant, d'ailleurs, je ne savais pas que ça existait, après qu'on pouvait être comme ça dans un hôpital avec tout le monde. Et depuis que je viens de voir, je sais pas, ça change complètement toute ma manière de voir les choses, ma manière de travailler, ma manière de vivre l'amitié avec les gens, ma manière de. Bon, je pense à toi tout le temps. Et le fait de lui avoir dit ça, paraplégique, toutes ces envies de suicide, ou d'euthanasie, je sais pas quoi, t'arrêtes. Souvent, il vous en remercie. Alors souvent, nous, il vous en remercie, mais en même temps. Nous, on est forcément là, avec eux, en disant, je te remercie d'être là, parce que ce que tu dis, c'est vraiment extraordinaire, c'est grâce à toi que moi, maintenant c'est facile, hein, les trucs qui paraissaient insurmontables, maintenant grâce à toi, parce que je sais que toi t'es là, que toi tu dis ça bien, que toi tu es joyeuse, super sympa, tu dis ça super bien, tu dis, ouais, c'est bien, continue, tout ça, et grâce à toi, et donc ils sentent bien que c'est vrai, c'était pas mal ce que mon frère avait organisé, mon frère était génial. Oui, parce qu'on remercie d'avoir le courage d'avoir traversé les tops et puis de tendre la main. Parce que vous savez, on demandait aux services sociaux de l'hôpital de faire le tour des jeunes et à chaque fois qu'ils rentrent, bien, est-ce que vous voulez avoir des gens qui passent, est-ce que vous voulez quelqu'un qui était, devenir ami, tout ça. Il cherche des amis, il cherche à rencontrer les gens, à rencontrer les jeunes et tout, vous êtes là. Alors, si eux, ils sont dans la détresse, c'est qu'ils acceptaient de prendre la main. À ce moment-là, on dit, ah, prends la main, prends la main. C'est un secret, hein, c'est ça. Alors à ce moment-là, on les remercie, vous comprenez, ça change tout. Ça change tout quand on est étudiant et qu'on vit ça, quoi, ça change tout. On peut plus aborder les choses de la même manière, on n'est plus dans des surprises parties, avec le même comportement, vous comprenez? C'est évident. Voilà. Eh bien, la meilleure manière de traverser cette étape, au fond, c'est de rester dans la fameuse louange qui était le prélude de tout le travail de deuil. C'est de rester avec cette nouvelle épreuve dans la louange et de la garder tout le temps, cette louange. Et de voir le côté positif. Au fur et à mesure que, vous savez, c'est un petit peu comme une liqueur. Vous prenez la liqueur, c'est un peu une liqueur qui serait de plus en plus pure, de plus en plus rare au fur et à mesure qu'on la boit. Le dernier fond, c'est... Mais il faut enlever beaucoup de liqueur, ça, pour arriver à ce fond. Ça. Alors on renonce. Vous voyez, ce serait un petit peu quelque chose comme ça, je dirais. Voir le positif, vous voyez bien que dans le New Age, on utilise beaucoup ça, travail de deuil, jusqu'à arriver à cet état, après l'expérience, de la pensée positive. Vous avez déjà entendu ça, parler, mais pas de la pensée positive. Mais pour nous, la pensée positive, c'est évidemment plus que la pensée, parce que les gens disent, il faut que vous positif, c'est positif. C'est beaucoup plus que ça. Alors, c'est quoi la pensée? Vous connaissez des... Oh, tout le monde connaît cette histoire, c'est avec le pasteur qui va au zoo avec... avec le rabbin, ça. Rabbin juif, vous connaissez ça, non? Oui, ça je vous l'ai raconté. Ça je vous l'ai raconté. Il va, alors, le vous savez, pour le protestant, tout est négatif, hein, le péché a tout détruit, rien, pour la foi, c'est fou. Hein, uniquement la foi. Il y a la foi qui justifie. Mais nous, on reste toujours pécheurs, et plus on a la foi, plus on est pécheurs. Plus on est péché, encore mieux. Bon. Et le rabbin dit non, le rabbin c'est l'espérance. Hein. Le rabbin c'est l'espérance. L'espérance du Messie, l'espérance. Et ils vont au et ensemble, ils disent alors, il y a cet arbre, bénisse dessus, Adonai pour cet arbre, il porte ses feuilles, il portera son fruit, et ses oiseaux. Ah, béni soit-tu Adonai pour ce cerf là, extraordinaire, ça, les cornes, pourquoi moi je l'ai dit. D'un seul coup, le pasteur, il commence à avoir les glandes, peut-être avec ce rabbin qui voit. Qui bénit Dieu, qui fait sa louange, tout ça. Et puis d'un seul coup, un oiseau passe et il chante sur sa tête. Alors le pasteur dit, ah voyons, qu'est-ce qu'il va dire maintenant lui. Alors le rabbin fait, béni sois-tu Adonai de ne pas avoir donné les ailes aux marches. Alors, c'est vrai. C'est la louange, c'est quoi? C'est de comprendre cette louange-là. Il y a une louange du départ, une louange de la fin. C'est un travail de la conversion et de la guérison. La louange de la fin, c'est d'être dans cet état où on se dit que tout ça passe, mais que Dieu demeure, que ça ne sert à rien. Il ne faut pas s'accrocher à un truc tel qu'il est maintenant. Ça passe. L'esprit, ce qui compte, c'est que Dieu demeure. C'est Dieu qui prend possession du terrain. Ce n'est pas moi qui vais maîtriser le terrain. C'est Dieu qui maîtrise. Laissons faire. Espérance, confiance, foi. Tout passe. Tout passe. Et Dieu demeure. Rien ne me trouble plus, si vous voulez. Il y a un moment où on rentre dans une espèce de passivité, d'amour, qui implique une confiance. On ne s'accroche pas. Ça ne se plus. C'est quelque chose qui ne se commande pas, vous comprenez? Vous voyez tout à fait. Voilà. Alors, dès que je commence à expérimenter ce petit filet intérieur, je commence à rentrer dans la sagesse. Quand vous expérimentez ça au centre, comme la sève en vous, ce filet pacifique de sérénité qui passe, le reste ça, c'est que vous commencez à passer donc de l'esprit de science à l'esprit de sagesse. Ça vient, travail du deuil, esprit de science, esprit de crainte, esprit de sagesse. Et ce filet de paix, même s'il est que petit, ça ne fait rien, il met une certaine joie au fond de vous, même si c'est. Il montre en tout cas que ça y est, vous êtes arrivé au terme de ce nouveau travail de deuil, cette guérison dans laquelle vous étiez depuis quelques mois, quelques semaines, si vous n'étiez pas mis depuis quelques semaines. Donc ça y est, vous arrivez à une nouvelle étape, à la fin de ce travail de deuil. Ça y est, vous savez que bon, le Seigneur vous a guéri. Que vous êtes donc dans une phase terminale par rapport à cette guérison. Alors, vous pouvez vous dire, bon, comment est-ce que je vais tirer de cette épreuve, puisque ça arrive à la fin, le plus de fruits possible, le plus de fécondité possible. Je pense par exemple à un petit jeune, de la communauté aurore. Il a eu une maladie à l'âge de 16 ans, 17 ans il souffrait des yeux, 18 ans il est aveugle. C'est Christian, certains le connaissent peut-être. Hein, mais là, il était toujours avec son bâton, j'ai vu plusieurs fois cette année de suite, avec son bâton, il était là, quelqu'un qui l'aidait à aller là. Et puis il parle aux gens, il parle aux jeunes, etc. Le nombre de conversions qu'a cette personne, c'est dingue. S'est converti après être venu devenir aveugle. Et quand il était sur Compostelle, à Pentecôte, il avait témoigné, il avait dit, voilà, je suis aveugle. Avant, je voyais comme vous tous, mais je ne connaissais pas du tout, j'avais aucune expérience de l'amour de Dieu, et ça m'a dit, je suis pas aveugle. Parce que maintenant je suis aveugle, je suis aveugle, je suis. Eh bien, je préfère millions de fois d'être aveugle. Et d'être comme je suis maintenant, que le retrouver à vue. Et d'être comme vous. C'est extraordinaire. C'est quand c'est des ados, des gens de 20 ans, tout ça, qui reçoivent ça en plein visage. Parce que c'était net, hein, ils disaient ça pas par. Il ne disait pas par cause de style, hein. ça se voit, c'est le cas de dire. Bon, vous voyez, comment trouver au fond cette fécondité? Oui. C'est en rentrant donc dans le mystère de la participation, et c'est au fond, c'est là où notre responsabilité joue, c'est qu'il faut qu'on aille jusqu'à ce mystère de fécondité. J'accepte de rentrer dans le mystère de la participation à la croix des autres. Alors, je dis oui, mais pas seulement pour moi. Je dis oui pour les autres. Je veux aller plus loin que ce oui pour moi. Et je veux aller dans ce oui pour la souffrance des autres. Ce ne sont pas les gens qui vont euthanasier leur conjoint ou leur enfant. Non seulement pour moi, mais je dis oui pour l'autre aussi. J'accepte que lui aussi souffre. Et il y a une espèce de participation. Je veux que mon oui soit participé, cette acceptation, ce oui, et tous ceux qui souffrent. Je pensais par exemple, quand j'étais à Montmorin, au début, j'étais vieux déjà, je faisais 28 ans, 29 ans. Parce que 28 ans, non, c'est vachement vieux. Vachement dur, hein? Eh bien, je suis rentré là à Montmorin, là, moins 20 degrés, on chauffait tant qu'on pouvait l'Ermitage, il y avait des courants d'air, on arrivait à avoir moins 5 dans l'Ermitage. Ah, c'est que là, il fait chaud ici, quoi. Et c'était. Et puis, il savait que Père Arnaud, et je m'occupais à un moment donné, je me suis occupé d'un Père Arnaud qui s'appelait Père Arnaud. Souffrait mais atrocement. ce mec-là, je sais pas, c'est invraisemblable, je n'ai jamais vu quelqu'un souffrir autant, jamais de ma vie. Pourtant, je sais, bon, mais lui, c'était dingue, je ne sais pas comment ça se fait, il souffrait physiquement à l'extrême, à s'en évanouir. C'était des phénomènes nerveux, c'était des phénomènes de boule nerveuse, je sais pas, le seul fait d'être là, on avait toujours envie de dégobiller, c'est pas compliqué. Pourtant, je suis resté jour et nuit avec lui pendant 2 ans, je ne me suis jamais habitué. Il souffrait psychologiquement, il souffrait moralement, il souffrait mystiquement. Mais à hurler, je vous l'ai déjà dit à certains d'entre vous, j'ai vécu avec ce père qui hurlait souffrance de 6 heures, mais jusqu'à 6 heures par jour et demi sans discontinuer. Si je calculais le nombre de moments où ça criait, hurlait, 6 heures, dans 24 heures, c'est inouï, c'est ce que j'ai donc souffert après. Et il avait permis, il avait donné, il avait décidé de le souffrir pour tous ceux qui sont fous. C'est quelqu'un qui avait attaché une importance d'amour très très grand à la vie. C'est lui qui était père spirituel de Henri Brincard. C'était son neveu et son père spirituel. Henri Brincard, quand il est, il prend toujours des notes, il est par ami. Mais néanmoins, de temps en temps, il arrivait à se traîner péniblement à la chapelle pour aller prier. Il arrivait toujours, mettre près de sa verna. Et de temps en temps, on se reprenait, parce que c'était obscur, c'était dans la chambre de Marc. Hein. Si jamais vous étiez là, qui lui, ça n'était pas. Au bout d'un certain temps, il commençait à parler. Et quelquefois, il avait des pointes de lucidité. Ça revenait, il pouvait prier. Et c'est toujours dans ces pointes de lucidité. Je ne souffre pas. La croix n'est pas assez grande. C'est quelque chose, vous voyez, il y a pour que d'autres aient la vie. Vous voyez, cette étape extraordinaire. Elle avait finalement accepté que son intelligence soit broyée dans une espèce de truc qui pouvait l'humilier le plus. Bon. Et sans compter donc toutes les souffrances, toutes les douleurs publiques qu'on peut passer parce que je ne peux pas vous écrire. Voilà. Moi, ça m'a fait du bien, vous savez, de passer de comme ça un an, ça, un jour et demi avec. Ça vaut tous les noviciats, ça, hein. Ça vaut tous les noviciats. Et puis après, quand je recevais les coups de permettre ou d'hyperprieur, etc., je me pose toujours, ça m'intéresse. C'est rien du tout. Je me dis, la base du crapaud n'atteint pas le regard de ce rêve.
Mais on a l'impression que celui-là, il se pousse pas mal. On a l'impression que c'est vraiment désagréable. Il nous méprise. Je ne suis pas un crapaud, moi.
Avant d'aller voir quand même, je savais que j'allais recevoir les salles hein, tous les coups. Hein. Il n'y a pas vu ce crapaud, je pourrais me positionner terriblement. Vous savez, en plus, il savait là, il ne l'avait jamais les dents. Il avait des dents, il y a plus d'accumulation sur les dents en volume que les dents elles-mêmes. Oui, mon père.
Allez, mon
Dieu. Oui. Alors, je descendais le chemin, j'avais demandé à mes parents qu'ils descendaient jusque dans le chemin. Ça. Puis, quand même, je suis pas insensible, hein. Alors, je me dis, bon, c'est bien, il faut quand même marchandage. J'y vais, mais, alors, pour atténuer, J'avais le temps, les 7 minutes qui me séparaient, je prenais ma bouteille de bonus, ma croix, et je faisais 30 exercices sur le père Emmanuel. Cesse de tromper le genre humain, gardant en lui le poison de la damnation éternelle. Cesse de venir à l'église. J'envoyais sur le père Emmanuel. Et j'arrivais sur lui. Puis une fois, il m'a dit, tu fais des exercices. Ah non, mon père. Je me disais, merde, comment est-ce qu'il a pu savoir? Je dis, tiens, ce qu'il a su, c'est que... Bon, alors, bon, ça n'a rien à voir avec le travail de Dieu. Hein? On a la question de la participation. La participation, c'est-à-dire qu'on accepte, on fait ce oui, mais on accepte ce oui aussi pour les autres, pas seulement pour que nous, on puisse être périmés, que les autres aussi puissent recevoir la grâce de la prise de conscience sur les nœuds analogues en leur âme, n'est-ce pas? Sur les nœuds analogues. Et donc... quand la grâce à ça, une lumière leur est donnée et une mise en route leur sera donnée à eux pour un chemin de conversion, de guérison, correspondant à celui que j'ai obtenu par la grâce de Dieu, des dons du Saint-Esprit, de science, de soin et de sagesse. Alors à ce moment-là, voyez, bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront le trésor et tout se termine dans le don de piété, voyez bien ça. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose de très beau de comprendre ça. Voilà. Alors. C'est tout à fait le contraire des faux amis de Job, ça. Je deviens la présence du consolateur, c'est un consolateur qui intègre, qui intègre la paix au Dieu, et qui reçoit la révolte des autres, et qui reçoit les larmes des autres, et qui reçoit la plaie des autres, au lieu de dire « Tu ne n'as pas pleuré, tu n'as pas révolté, c'est pas bien. » Mais qui la reçoit pour lui-même, il intègre, hein, voyez, voilà. Bon, n'oubliez pas que une fois le travail de deuil, une fois que le travail de deuil est fait, et je ne reviendrai plus dessus. Jamais fini le travail de deuil, hein, parce que on verra ça. Voilà, vous démarrez ici. Avec les différentes étapes que je viens de dire. Mais on verra ça la prochaine fois, peut-être sur la question du cercle vital du travail de deuil. C'est un moment, une fois que vous êtes arrivé là, alors à ce moment-là, ben ça continue, mais à un moment donné, bon, ça y est, vous trouvez votre identité. Mais vous cernez votre identité de plus en plus, ça y est, de plus en plus, d'une manière de plus en plus proche. Votre identité, c'est quoi? C'est votre innocence divine. C'est ça? Nous sommes divines crucifiées et au fur et à mesure elles triomphent. Mais c'est le triomphe du Christ, hein, qui saisit. En fait, c'est peut-être pas comme ça que c'est sur le schéma que je vous donnerai la prochaine fois. Cette spirale qui ne cesse de diminuer, mais en réalité, je ne pense pas que c'est ça. C'est toujours la même spirale, vous restez toujours un être humain. Hein. Vous sentez bien que ce n'est pas exactement ce mouvement-là, mais ça on verra la prochaine fois. On va essayer d'expliquer ça. Donc, en fait, c'est comme un ressort, c'est toujours la même spire, quelque part. Hein? Mais c'est donc l'innocence divine qui est en vous qui ne cesse de prendre plus de place. N'est-ce pas? Voilà, jusqu'à prendre toute la place à la fin. Vous voyez bien? Parce que votre innocence divine crucifiée est là, le Christ tient. Et prend la place du centre de votre identité profonde, blessée, il prend toute la place, et il ne cesse de croître en vous. Mais à la fin, votre innocence crucifiée triomphe en innocence du Christ. Hein, parce que vous êtes rentré dans la grâce, hein, dans la plénitude de grâce, dans la grâce de l'Église, dans la grâce capitale du Christ, dans la grâce de la mère, dans les plaies divines, mystiques. Cachés en vous, vous voyez, sont celles du cœur, croyez.
Voilà. Alors, tout de suite après, du coup, si vous êtes arrivé, vous avez clôturé le cycle, et que vous êtes arrivé à un état qui correspond au don qui était, n'est-ce pas, et que vous acceptez de revivre dans l'acceptation, et même plus que ça, vous acceptez plus que ce que vous avez subi pour les autres, hein, pour ceux qui sont comme vous, pour ceux, voyez là, que cette étape-là est arrivée, alors à ce moment-là, c'est possible que par rapport à cet événement analogique qui s'est répété, répété pour mettre à nu au fond, qui permet de mettre à nu cette question, c'est possible pour moi de rentrer donc dans une étape suivante qui est l'étape de la guérison des souvenirs et de la réconciliation qui sont passés, parce que ça c'est pas encore la guérison du souvenir, le souvenir est toujours là, la blessure il est toujours. La guérison de la mémoire, elle vient prendre son appui là. Vous voyez, le travail de deuil est terminé, et du coup, le travail de deuil est terminé. Il y a d'autres choses à guérir, il y a d'autres choses sur lesquelles il faut que je lâche prise, hein, qui vont correspondre à l'étape de ma vie, de ma conversion. Mais sur ce point-là, en tout cas, j'ai lâché prise. J'ai accepté de continuer à en souffrir autant, mais dans l'allégresse, la paix, la joie et pour les autres, bien volontiers, parce que bon, pour moi, c'est devenu facile, la force est là, et je peux avoir la force pour les autres. Mais donc, c'est, et à partir du moment où j'arrive à cette étape que j'ai appelée étape de participation, vous voyez, c'est incompréhensible ce que je dis. À partir de ce moment-là, je suis sur le tremplin qui permet d'accéder à la guérison du souffrir, c'est-à-dire la réconciliation avec mon passé. Il faut que je me réconcilie avec mon passé. Comment vous rendez bien compte qu'avant d'avoir fait ça, donc cette étape-là, je ne peux pas encore pardonner, vraiment, hein. Je ne peux pas encore pardonner, tout à fait, me pardonner, pardonner à celui qui m'a fait ça, ma mère, tout ça, qui a tout fait pour me casser, tout ça. Mais là, oui, je peux me réconcilier avec mon passé. C'est la réconciliation avec son passé qui devient possible sur la base de ce tremplin-là, concernant cette blessure-là, cette défaillance-là que j'ai. Elle peut se faire à partir de ce moment-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors, à ce moment-là, si je me suis réconcilié avec mon passé, je retrouve l'axe, hein, l'axe de l'alliance avec le Christ. Vous voyez? Je retrouve l'axe d'une innocence qui triomphe dans l'innocence qui. Et puis, je retrouve le fameux axe de l'alliance, de l'image à la ressemblance de Dieu. Et à ce moment-là, je retrouve tout à fait mon identité, je suis fils avec le Fils du Père. Dans les bras du Père. Il n'y a plus d'obstacle entre lui et moi. Bon, mais je crois que c'était important de regarder quand même la question du travail de deuil, parce que c'est un antécédent. Bon, la prochaine fois, ce qu'on va regarder, c'est comment on va reprendre à zéro. Très bien. On va reprendre à zéro, et on va regarder, justement, les racines d'amère. Parce que c'était dans une des premières lectures d'il y a 15 jours, je crois, c'était le début du mois de février. Il faut enlever de votre cœur toutes les racines d'amertume. Vous vous rappelez ce passage extraordinaire qu'on avait dans une des messes il y a 15 jours, là. Enlever ces racines d'amertume, là, pour les enlever, il faut d'abord les repérer. Bon, donc, on va repérer les racines d'amertume, la fameuse question des racines. On dit, si ça faisait ça, ça. Bon, mais la question des racines, repérer les racines d'amertume grâce aux événements analogiques avec tous les analogués des origines de nos blessures. Est-ce que c'est une blessure par rapport à la maternité, par rapport à la paternité, par rapport à la fraternité, par rapport à la filiation, par rapport à la sensualité, voilà, les cinq racines. Et donc on va regarder ça, tout ça, derrière quels type d'événements analogiques se planquent, se cachent, si vous préférez, ces blessures. Ce qu'on va voir. Ça, c'est très intéressant. Je vais voir que tous les problèmes que j'ai, finalement, toujours par rapport à un certain type de relation. Grâce à quoi je peux trouver. C'est pour s'exercer la prise de conscience, hein, dans la prière. C'est pour éclairer notre intelligence et notre discernement, pour comprendre, tiens, c'est plutôt par rapport à la maternité. Par rapport à ma mère. Et donc par rapport à la providence de Dieu.
par rapport à la providence de Dieu. C'est un travail de Dieu. Donc il faut redescendre à la racine profonde grâce aux événements d'analogie. Hein, on prenait l'exemple de quelqu'un tout à l'heure. Donc, les événements logiques, ils se répètent tout le temps, mais finalement, à bien regarder, hein, c'est toujours dans la même direction.
Il y a quelque chose en moi qui fait que dès que c'est un patron, dès que c'est quelqu'un d'autre qui est avec moi, ben je subis des injustices criantes. Mais ça ne tient pas à ce type-là, ça ne tient pas à ce type-là, puisque ça se répète. Même si les gens ont quelqu'un d'hyper cruel, hyper injuste, hyper honnête, hyper droit, hyper fin, bah, je me rends plus intéressant, paf, des injustices criantes. Alors, putain. Hein? Ah oui, non, ça c'est encore autre chose. Autre chose. Oui, tout à fait. Mais c'est pas Dieu qui fait. Il faut comprendre que c'est. Il y a des choses en vous qui ne sont pas guéries, que vous projetez sur Dieu, et du coup, ben, effectivement, les choses se passent. Mais bon, comment est-ce que je pourrais expliquer ça?
On a des mots
en la zone. Ah, je ne sais pas.
Donc,
je vais m'apercevoir que c'est souvent un problème avec d'écrire dans une communauté, ça va pas. Et ça, la communauté me rejette. Finalement, bien regarder, c'est pas l'autorité qui me rejette. L'autorité est obligée de réagir en fonction de la communauté. La communauté, elle demande le rejet. Bon, je vais m'apercevoir finalement à bien regarder, c'est la communauté qui me rejette tout le temps. Et en même temps, en moi, effectivement, profondément, il y a toujours un problème vis-à-vis des communautés, d'une famille, d'un processus, etc. Et vous voyez, j'ai un problème vis-à-vis d'une communauté, j'ai un problème vis-à-vis de la télé, j'ai un problème vis-à-vis de l'église, j'ai un problème vis-à-vis de la maternelle, c'est ce qui m'enveloppe. Tout ça, ça cache un problème profond, spirituel, c'est ça. Donc je ne peux pas le ressentir, c'est ce que je fais. Un événement caché dans ma mémoire spirituelle, pas mémoire ontologique, pas mémoire spirituelle, lequel événement de ma mémoire spirituelle cache la manière dont j'ai reçu la première lecture de ma mémoire ontologique. Mmh. On va voir ça la prochaine fois, d'accord?